qui est vraiment fondamentale et qui devrait être prêché de temps en temps. Moi, je l'avais déjà fait une fois. Et donc, c'est un passage dans Colossiens qui dit, entre autres, hein, supportez-vous, pardonnez-vous, instruisez-vous les uns les autres et exhortez-vous les uns les autres. Et on s'est rappelé hein, ce matin que le message de Sylvain nous encourageait vraiment à avoir de bonnes racines, comme un arbre planté auprès d'un torrent. Et le message, une des méthodes qui pourrait être utilisée pour avoir des bonnes racines, c'est ce qu'on va parler ce matin, ce texte dans Colossiens qui nous parle de vivre la communion fraternelle, de vivre vraiment la famille, on peut dire comme ça. Les frères et sœurs, on se chamaille souvent, on a des choses les uns contre les autres, on doit pardonner, c'est la famille, quoi. Ça évolue au gré des tensions, des complications, mais on est ensemble et la famille reste vraiment, je pense, dans le monde actuel, un repère qui n'a nul autre pareil. Donc on va lire dans Colossiens 3, versets 12 à 17. Colossiens 3, versets 12 à 17. Colossiens 3, 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce matin, on va vraiment parler de ces interactions entre frères et sœurs chrétiens. Voilà. Il y a dans ce texte quatre interactions particulièrement qui nous sont données par Paul. Et on peut les retrouver séparément à plusieurs endroits dans la Bible sur ces quatre. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, instruisez-vous et exhortez-vous. Il y a vraiment dans ce passage des interactions qui sont entre Dieu et nous. Et on nous dit revêtez-vous. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. On ne va pas tellement s'attarder sur ces deux-là, mais on voit hein, que ça parle de revêtez-vous. Prendre position et s'approprier des valeurs du royaume. Il faut être vraiment, il faut vouloir revêtir ce que Dieu nous demande. Et ce qui est demandé entre les frères et sœurs dans ce passage, parmi nous au sein de l'Église, c'est aussi des principes vraiment qu'on doit, revêtir, on doit se les approprier. Et voilà, ça laisse cet individualisme, ces fiertés personnelles, ces problèmes d'autorité, tout ça, il faut laisser de côté. Voilà, donc on va partir un petit peu à la recherche de ces principes. Donc, premièrement, supportez-vous les uns les autres. On peut espérer rêver mieux que se supporter. Mais voilà, c'est le premier conseil de Paul ici. Je pense à un conseil qui est vraiment encore pertinent pour aujourd'hui. Il est donné ici aux Colossiens, il est donné dans Éphésiens aussi. Éphésiens 4, au verset 1, nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Encore une fois. S'il est donné voilà, à deux de ces premières églises, le conseil est valable encore aujourd'hui pour nous. Je pense vraiment que c'est un des fondements de l'Église qui demeure. Quand on nous dit voilà, de nous supporter, c'est-à-dire de rester ensemble quand le trouble arrive. Les premiers chrétiens étaient vraiment sous menace de mort. Hein. Nous, pas encore. Non, on n'est pas sous menace de mort pour l'instant. Voilà. On n'a pas à craindre ça, mais on doit quand même se supporter. C'est-à-dire que voilà, quand on a des désaccords, on va essayer de rester ensemble. Et moi, je pense que le Seigneur a fait certains animaux qui vont chasser en groupe. Vous savez, il y a les loups qui chassent en meute, qui chassent en groupe. Et je pense que on pourrait dire, donc il y a le loup, les lions aussi chassent en groupe, il y en a plusieurs. Et je pense que le Seigneur nous donne vraiment une efficacité ensemble que l'on n'a pas quand on est tout seul. Et parfois, on va être dans l'Église, plutôt, on va aimer plus une théologie, une chose, voilà, une manière de penser que Dieu lui-même. Et nous, vraiment, ce qui nous rassemble, c'est le Seigneur. Et c'est ce à quoi on regarde en premier. Donc, rester ensemble, hein, c'est mieux que se séparer. Pour grandir, si vous voulez grandir avec le Seigneur, c'est mieux de rester ensemble. Nous savons aussi hein, que le fer aiguise le fer, et que voilà, des fois, quand on se frotte les uns les autres, on peut devenir plus aiguisé. On apprend un petit peu à connaître les endroits où ça peut frotter avec nos frères et sœurs chrétiens. On apprend aussi peut-être à être plus pointu sur certains sujets à force de choses, de temps qui se passent. Et voilà, devenir aiguisé, c'est aussi trancher le vrai du faux et donc hein, discerner le bien du mal. Donc, je veux vraiment nous encourager à être aiguisé, à se supporter parfois et voilà. À être bien pointu parfois. Et c'est vrai que nos familles d'église sont bâties sur des idées de suivre Dieu le plus fidèlement possible. Et parfois, on va créer plusieurs dénominations, plusieurs familles, on va se séparer un petit peu des autres. Et je pense que voilà, c'est pas toujours. On n'est pas toujours dans cette attitude de se supporter les uns les autres. On a vite tendance à se séparer, même quand on est dans un groupe. Par exemple, on fait une activité, nous, ça ne nous intéresse pas. Clac, on a vite des fois tendance à ne pas suivre le groupe. Mais voilà, suivre Dieu le plus fidèlement et le plus juste possible, ça c'est vraiment important, c'est vraiment une bonne chose. Mais attention, quand des fois ça peut conduire à une séparation, attention à cela. Les séparations, les divisions hein, ne glorifient pas Dieu vraiment dans nos églises. Ils rendent un mauvais témoignage, on le sait. Beaucoup de gens qui ne connaissent rien à l'église disent « Oh, comme ils se tapent dessus les uns les autres, les catholiques avec les évangéliques, puis tout ça, puis... Et puis, on a des fois ce mauvais témoignage qui nous revient dans la tête. En pensant à ce message, il y a ce chant qui a été pas mal chanté pendant le confinement, je crois, sur certaines émissions. C'est Les Murs de Division. C'est une chanson qui est déjà assez ancienne, mais qui a été pas mal reprise. Et je pense vraiment qu'il y a des murs de division qu'on doit combattre. Et je pense vraiment que ce chant est pertinent pour toutes ces divisions qui peuvent se créer, et aussi, voilà, en particulier dans toute cette période difficile. Voilà, donc je pense qu'on mettra ce chant à la fin du message pour écouter vraiment ce message et rester dans cette optique de se supporter, même si bien sûr on espère mieux que se supporter. En tout cas, ici à Mouchard, on espère vraiment de vivre la famille dans l'amour. Le deuxième point de ce texte, pardonnez-vous les uns les autres. Donc, on parle souvent de ce sujet-là, et on entend quand même encore des fois « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Et donc, cette phrase, pour moi, elle est un peu, vraiment, pour le coup, à oublier. « Je pardonne, mais je n'oublie pas », c'est un peu « je garde en mémoire ». Pour le réutiliser plus tard. Donc voilà, vraiment, faisons attention à ce langage qui dit « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Se pardonner les uns les autres, hein, c'est vraiment un principe de base important. Je sais que j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes aujourd'hui, mais vraiment, je pense qu'on a vraiment toujours besoin de le réentendre, de combien, voilà, pardonner, c'est important. En grec, aphiemi veut dire vraiment laisser aller, laisser libre, laisser les choses. En hébreu aussi, il y a couvrir, cette idée de vraiment de couvrir, de supprimer, de vraiment de lâcher tout, quoi. Pardonner, c'est vraiment, c'est supprimer cette problème, cette chose qui est arrivée entre nous. Et voilà, il y a tellement de choses, des fois des petites choses qui restent là, et voilà, on peut se dire, voilà, c'est pas grand-chose, mais vraiment, laissons, libérons les choses qui ont besoin d'être libérées. Le dictionnaire biblique, hein, dit vraiment, pardonner, c'est rétablir la relation entre deux personnes qui avaient été rompues à cause d'une offense. Que vraiment, nous soyons dans ce rétablissement de chercher cette relation pour chacun d'entre nous, dans nos familles, dans l'Église, que vraiment les relations soient rétablies à chaque fois. 2 Corinthiens 5, au verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. J'aime vraiment ce passage de 2 Corinthiens. Nous avons ce ministère de la réconciliation. Je l'ai déjà dit des fois, mais c'est vraiment, on a ce... Nous sommes chargés de se pardonner, mais plus que ça, de faire que cette réconciliation intervienne là où on est, avec nos amis, sur notre lieu de travail. On a pour mission ce ministère de réconcilier, de remettre ensemble. Et bien sûr, hein, ça parle par le pardon. Alors c'est vrai que j'aurais pu dire, j'aurais pu prendre le pardon comme le premier point, parce que c'est presque le plus important, même si voilà, on ne peut pas mettre d'ordre. Mais voilà, j'ai mis dans l'ordre du texte biblique, donc je l'ai pris en deuxième. Et voilà. Et donc, pour le pardon, on peut pas vraiment parler du pardon sans parler aussi du Notre Père. Donc, hein, le Notre Père, vous savez tous... reprend cette notion de pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et j'en parlais avec mon papa Florian cette semaine. Et il me rappelait que dans le Notre Père, la seule mission, la seule chose que nous avons à faire de notre côté, donc le Notre Père, c'est « Seigneur, dis-nous comment il faut prier ?» Et cette prière, la seule chose que nous avons à faire, c'est le pardon. Le pardon. Partout, en tout temps. Et en plus de ça, juste après le Notre Père, dans Matthieu 6, verset 14, on reparle encore de cette notion-là. Il y a vraiment cette insistance encore après la prière du Notre Père. Il y a cette insistance sur le pardon. Matthieu 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc voilà, il y a encore cette insistance, vraiment, c'est un point pour moi vraiment fondamental du Notre Père. Et vous savez peut-être que pardonner, c'est un parcours qui peut prendre parfois du temps, qui est long, et voilà, ça peut prendre du temps. On peut vraiment vouloir pardonner, c'est déjà une première étape. Je veux pardonner, et après ça peut prendre du temps à se faire. Et il y a des choses qui nécessitent d'être désamorcées, voilà. Et donc il y a des possibilités, des programmes pour aller vraiment chercher le fond du problème, pour vraiment désamorcer et pouvoir permettre de pardonner pleinement. Voilà, donc le troisième point, instruisez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Donc 2 Timothée 3 nous parle à ce sujet, 2 Timothée 3 au verset 4, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Donc, nous devons vraiment demeurer dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Nous devons aussi, le texte, rappeler de qui nous les avons apprises. Alors, c'est pas toujours facile, mais voilà, quand on reçoit des fois un cadeau, une parole, on découvre quelque chose, pouvoir se rappeler qui nous en a parlé. Le verset 15 dit aussi, « Dès notre enfance, tu connais les saintes lettres. » Pas toujours. La culture hébreuse a vraiment un fort accent sur l'enseignement dès l'enfance. Nous aussi, essayons de transmettre au maximum, au plus tôt. Et voilà, les principes peuvent des fois s'apprendre dès le plus jeune âge. Mais voilà, la parole inspirée de Dieu, comme dit le verset, c'est notre principal outil pour enseigner, pour convaincre. Et la parole inspirée, avoir une parole inspirée, c'est vraiment un couteau suisse pour chaque situation. Donc à nous de vraiment rechercher, c'est la parole déjà, mais la parole vraiment inspirée pour chaque situation. La fin de Colossiens 3 nous dit aussi « Instruisez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Donc moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de séparation entre au début du culte la louange, puis après on passe au message. La louange nous instruit aussi. La Bible nous dit que « Instruisez-vous par des cantiques spirituels chantant à Dieu. » Donc, quand on est dans la louange, quand on chante le Seigneur, aussi on s'instruit. tout, on peut, pourrait presque dire tout le culte, on s'instruit. Voilà, donc la louange nous instruit aussi. Et c'est vraiment cette possibilité de s'instruire, je pense que c'est vraiment une grâce de continuer à apprendre. Voilà, c'est d'avoir cet appétit pour continuer à chercher. Et voilà, s'instruire, c'est vraiment, je pense, un des piliers de l'Église aussi. L'Église vit de la parole de Dieu. Et la parole, c'est vraiment voilà, cette nourriture spirituelle. Acte 5, au verset 42, nous dit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc, les apôtres ne cessaient d'enseigner. Et voilà, de nos jours, voilà, on a toujours à tirer des enseignements. Voilà, on a de la chance d'avoir... beaucoup de ressources maintenant avec Internet, tout ça, on a accès à beaucoup de contenu, on a voilà, toujours aussi nos responsables spirituels, mais vraiment, on voit que les apôtres ne cessaient d'enseigner, alors que nous puissions vraiment apprendre et redonner pour enseigner. Donc ensuite, le dernier point, « Exhortez-vous les uns les autres. » Donc, « exhortez-vous », c'est pousser à une action par des paroles, inciter quelqu'un à faire quelque chose en lui donnant des propos visant à le convaincre. Donc, là aussi, c'est vraiment super d'être dans cette exhortation. Et de pouvoir vraiment permettre d'encourager, de libérer ce potentiel que chacun a. Et en préparant ce message, il y a vraiment une image très forte qui m'est venue, et c'est l'image d'un gros barrage qui retient un gros lac d'eau derrière. Et certains d'entre nous, et d'autres personnes aussi dans d'autres contextes, retiennent vraiment un lac de dons, un lac de bonnes choses qui ne sont pas répandues. Et je nous encourage vraiment ce matin à avoir des paroles qui peuvent des fois venir briser un petit peu de ce barrage. Des fois, on a des gens qui... On est des fois à retenir des dons. On a des fois toute une réserve de dons. Alors, on le voit pas toujours, hein, mais on peut voir des fois chez certaines personnes un lac de dons qui est retenu par un barrage. Et que nous puissions être vraiment des fois comme en exhortant les uns les autres, en exhortant les personnes... comme cette personne qui viendrait pouvoir briser un petit peu de ce barrage en encourageant. Voilà. Dans Hébreux 3, au verset 12, la parole nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Verset 13 « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Verset 13 nous dit vraiment, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Ah, c'est tous les jours, hein, tous les jours, faut exhorter. Tous les jours, exhortons. Chaque jour, aussi longtemps que nous le pouvons, encourager avec une force nouvelle. Notre parole, hein, les proverbes nous le disent souvent, notre parole est puissante. Notre parole peut vraiment déclencher des choses. Ça peut être en mal, mais... La Bible ici nous encourage à exhorter, donc à vraiment libérer des paroles de bien. La parole, hein, nous dit encore la Bible, la parole a le pouvoir de vie. Hein. Donc, soyons conscients vraiment que la parole a le pouvoir de vie, a le pouvoir de, voilà, de donner, de libérer les choses. Exhorter, c'est discerner aussi que, quand il y a les bons moments pour le dire. Et voilà. Donc, tous ces principes-là, hein, ces principes du royaume, nous invitent vraiment à être sur la brèche, à penser à chaque fois que vous êtes peut-être la dernière personne en mesure de sauver une relation, un projet, tout ça. Et voilà, que je disais que ce message, c'est le message de la famille, c'est que vraiment, c'est des choses faciles, entre guillemets, pas toujours, mais c'est tout le temps, on a besoin de se supporter les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, de s'instruire, de s'exhorter. C'est quatre choses vraiment qui sont, je pense, qui nous sont utiles tout le temps et qui sont utiles à tout moment. Donc, je vais conclure gentiment et avec un verset dans 2 Corinthiens 5, au verset 20. Ce verset bien connu nous encourage à être ambassadeurs. Verset 20 nous dit, 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ. » Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc ça résume pas mal de choses. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Ben oui, clairement on peut exhorter, et le Seigneur exhorte à travers nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous être réconciliés avec le Seigneur pour avoir vraiment cette relation et avoir aussi ce ministère de réconciliation, hein, sur l'extérieur, comme on a dit. Donc, l'ambassadeur, hein, c'est quelque chose que vous connaissez. Comment il vit, c'est quelqu'un vraiment qui représente, il est invité à droite à gauche, il a des grandes responsabilités, il représente le pays. Et donc, voilà, nous, ce verset bien connu nous dit que nous avons des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et donc, nous représentons vraiment les intérêts du Seigneur. Et on doit vraiment diffuser cette pensée du Seigneur, en particulier dans ces quatre principes de supportez-vous, pardonnez-vous, instruisez-vous et exhortez-vous. Donc, voilà, que nous soyons vraiment... dans cet objectif de représenter le Seigneur, de vraiment reconnaître ces moments où on doit vraiment passer à l'acte pour se supporter, pour se pardonner, pour s'instruire et pour s'exhorter. Et voilà, que ça soit vraiment toujours dans la relation avec le Seigneur. Vivre ces choses, hein, ces quatre choses optimalement, c'est vraiment toujours rester dans cette relation avec le Seigneur. Je vais prier et puis je vais mettre le chant Les Murs de Division. Alors je suis pas encore tout bien préparé, mais je vais prendre mon téléphone puis je vais mettre en place la chanson. Voilà. Je vais prier.